Menteur, traître. La formule est connue et est tellement vraie que, traduite littéralement, elle ne fonctionne pas. Trahir ou, à tout le moins, s'éloigner du sens littéral d'un texte pour mieux en faire ressortir l'âme et l'esprit, c'est tout le travail des traducteurs et traductrices, particulièrement celles et ceux qui officient dans le sous-titrage ou l'adaptation de doublage, comme notre invité de ce soir. Maï Boiron, bonsoir.
Bonsoir.
On va revenir sur ta carrière puisque tu as travaillé sur de très nombreux films, comme je le disais, en sous-titrage et en adaptation. Donc on va, puisqu'il y a une distinction entre les deux, on va voir ce que c'est, on va le dire. Donc on aura l'occasion d'aborder de nombreux de tes projets, mais pour citer les plus récents, le fameux Don't Look Up dont tout le monde parle en ce moment. Aussi parmi les exemples récents, SOS Fantôme. Les exemples futurs, Top Gun qui est... Le prochain Top Gun qui ne cesse d'être repoussé, qui n'est toujours pas sorti, qui doit sortir cette année, toujours avec Tom Cruise. Le génial Three Billboards avec Francis McDormand. Quasiment tous les films Mission Impossible. Et aussi quelques films plus d'auteurs, on va dire. Notamment des films comme The French Dispatch ou Mank, parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Tout d'abord, comment devient-on adaptatrice, puisqu'on parle plutôt d'adaptation que de traduction dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut aimer jouer avec les mots? Est-ce qu'il faut aimer jouer un petit peu sur les mots aussi à la base?
Oui, bien sûr, l'amour des mots, l'amour de la langue française est une condition indispensable. La maîtrise d'une langue étrangère au moins, l'anglais étant la langue évidemment la plus répandue dans tout ce qui est audiovisuel, avec la production américaine, anglaise, australienne, enfin tous les pays anglophones, on a beaucoup de travail dans ce domaine. Aujourd'hui, il existe... Je ne les ai pas comptés, mais 6 ou 7 masters qui préparent au métier de traducteur, adaptateur audiovisuel. À l'époque où j'ai commencé, il n'en existait qu'un. Je suis arrivée dans le métier environ 2 ans après l'apparition du premier DESS, comme ça s'appelait à l'époque, de traduction et adaptation audiovisuelle. Donc je n'ai pas eu, en l'occurrence, à le faire, puisque j'ai commencé sur le tas grâce à Anne et Georges Duterre, qui était un couple de traducteurs très connus dans les années 70 et 80. Ils ont notamment travaillé sur les Scorsese, les Kubrick, tous les grands films qui nous faisaient rêver à l'époque. Mais aujourd'hui, donc, il arrive chaque année peut-être une centaine d'étudiants, je ne veux pas me tromper sur le chiffre, mais beaucoup, beaucoup d'étudiants arrivent sur le marché. Donc la situation a radicalement changé par rapport à mes débuts à moi. Voilà, donc il existe des études officielles, on peut faire des stages dans les laboratoires de sous-titrage, de doublage pour se préparer à ce métier.
C'est moins artisanal, pour le dire comme ça, que ça l'était quand toi tu as débuté. Si je dis pas de bêtises, en lisant des infos sur toi, tu disais que tu avais fait un petit peu d'études là-dedans, mais c'était surtout par le biais de stages et après être passé par des différentes sociétés de doublage dans lesquelles tu avais travaillé avant de travailler à proprement parler en freelance, comme c'est le cas aujourd'hui ?
Absolument. Donc, comme je le disais, j'avais l'intention de faire le DESS en question, de traduction et adaptation cinématographique. Pardon. Et grâce à Anne et Georges Duterre, j'ai pu entrer directement chez Titre à Film, qui était un laboratoire de... qui est toujours d'ailleurs.
C'est TVS, Titra Film maintenant, ça doit s'appeler.
Ouais, c'est Titra City, ah, Titra Film, Titra Police, pardon.
Ils se sont rachetés beaucoup les uns les autres, ils ont changé de nom, donc c'est un petit peu difficile à suivre parfois, le mercato.
Ouais. C'est ça, ça a beaucoup changé ces dernières années, notamment depuis la révolution du numérique, évidemment. Ils ont multiplié leurs activités, ils se sont adaptés plutôt bien aux nouveaux métiers qui sont apparus depuis le numérique. Mais à l'époque, j'ai donc commencé chez Titra Film, comme ça s'appelait à l'époque. Ça c'était à Joinville-le-Pont, une espèce de cité du cinéma qui était le symbole d'une richesse cinématographique française à l'époque, et ça me faisait rêver. J'avais l'impression d'être dans un rêve quand j'ai commencé à travailler en 1993 chez Titra.
Donc on aura l'occasion de le dire avec plus de détails. Donc on distingue en doublage donc ce qu'on appelle l'adaptation de doublage et le sous-titrage. Donc l'adaptation de doublage, c'est vraiment quand on va voir un film en VF, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas la langue d'origine, qui est souvent l'anglais comme tu le disais, dans les oreilles. Et c'est un petit peu, pour ceux qui suivent, les très nombreux j'en suis sûr qui suivent l'émission, c'est un petit peu le travail en amont de ce dont on avait parlé quand Barbara Tissier était venue, était invitée dans l'émission commission, puisque elle est comédienne et directrice artistique. Donc le travail des adaptateurs, c'est vraiment tout fait en amont. Donc il y a même une étape, sans rentrer dans des détails trop techniques, ce qu'on appelle la détection. C'est-à-dire que là, c'est à quel endroit on va mettre, on va faire s'ouvrir et se fermer les bouches, pour, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle pour les dialogues, histoire que ce soit raccord. Donc justement, ça, ce qu'on appelle la synchro-labiale, donc c'est-à-dire que le fait que les lèvres s'ouvrent et se ferment à peu près, parfois, en fonction de la VO, c'est une contrainte, comme le sous-titrage a ses contraintes. Est-ce que c'est pour ça qu'on parle d'adaptation plutôt que de traduction? On est moins proche ou parfois même servile que dans une traduction littérale, littéraire, d'un
oui,
texte.
Oui, littéral. Les deux peuvent. on peut étudier les deux questions. Effectivement, la synchro en doublage oblige parfois à prendre certaines libertés, même si l'idéal est de rester le plus fidèle possible à la VO, puisque les comédiens français qui passent derrière nous doivent jouer des émotions, jouer des appuis, jouer des dialogues qui ont été écrits avec des mots à certains endroits. Donc, il ne faut pas trop bouleverser tout ça non plus. Donc, on va s'appuyer effectivement sur la détection qui a été faite en amont de notre travail et qui nous indique les endroits où la bouche se ferme, s'ouvre, où les labiales M, B et P sont prononcées. Mmh. Et nous, on va s'appuyer sur l'image en premier pour voir les appuis principaux, les fermetures de bouche qui se voient beaucoup, les émotions qui sont extrêmement visibles et le jeu du comédien. Parce qu'on parle de synchro labial, mais j'ai souvent envie de corriger un tout petit peu cette expression-là, parce que c'est aussi une synchro corporelle, une synchro émotionnelle, synchro sur le jeu. Et l'adaptation en français doit respecter tout ça. Elle ne doit pas que respecter la bouche, parce que ça rendrait un texte plat, ça rendrait un texte peu naturel. Donc il faut vraiment observer l'image, se mettre dans la peau du personnage qu'on traduit, et essayer de respecter vraiment ce rythme de la parole et se glisser dans le rythme de l'anglais avec les expressions françaises qu'on va trouver. Et ce qui se voit le plus, c'est la fin des phrases. Donc on va souvent se concentrer sur la fin de phrase pour placer notre texte. Et tout ce qui découle avant va se glisser comme de l'eau dans une rivière. C'est l'image qui me vient. Ou des notes sur une portée pour respecter le rythme de ce qu'on voit à l'écran.
C'est ça, en fait, la contrainte, peut-être, c'est de partir de quelque chose qui est très technique et de s'élever au-delà de cette contrainte technique pour avoir quelque chose qui est dans le registre de l'émotionnel et du corporel, comme tu disais.
Oui, exactement. En fait, quand on traduit des dialogues de doublage, je trouve qu'il est important de les dire, de les jouer, enfin, le mieux possible. On n'est pas comédien, hein, pour la plupart, mais c'est très important de les dire à voix haute, voire de projeter sa voix, parce que les mots qu'on écrit prennent de la place, plus ou moins de place, selon qu'ils sont dits forts, selon qu'ils sont projetés, qu'il y a de l'émotion, de la colère, de la tristesse, de la lenteur. Voilà, toutes les émotions humaines se traduisent avec un rythme. Et si on ne les dit pas à voix haute... Certains y arrivent. Hein. Je sais que j'ai des collègues qui n'ont pas le réflexe de parler à voix haute, mais moi, je trouve que ça aide d'écrire le plus justement possible, se mettre dans la peau du comédien, parce qu'il faut comprendre qu'il joue des émotions. Il ne joue pas que des mots, il ne joue pas que du synchronisme. Mmh. On m'a dit un jour, sur une traduction de quelqu'un, oh là là, il fallait courir après la synchro. Et ça, c'est très inconfortable. Un comédien, il arrive le matin, il n'a souvent pas vu le film.
Bien sûr.
Et il découvre la scène, surtout il la voit une fois.
Pardon. Oui, pardon. Non, maintenant, en plus, c'est ce qu'on disait avec Barbara Tissier, c'est aussi parfois dans les copies qu'on leur montre pour les faire doubler, c'est souvent, parfois, ils voient que la bouche quand c'est des projets top secrets. Donc parfois, c'est vrai qu'ils se disent... Sur quoi on travaille déjà? Qu'est-ce que je double? Donc c'est...
Bien sûr, ils sont dans des conditions qui sont parfois très difficiles et ils découvrent le film. Donc, il faut absolument que le texte soit naturel. L'essentiel, c'est le naturel. La synchro aussi, évidemment, mais il ne faut pas sacrifier le naturel à la synchro. Quand j'ai deux solutions qui me viennent, je choisis toujours la solution la plus naturelle. Et effectivement, les directeurs de plateau que je connais, parce que je passais beaucoup de temps en plateau avant la Covid, moins maintenant, mais ils me disaient tous, tu vois, là, entre deux phrases, parfois je laisse deux choix sur la bande rythmo, j'écris une solution bis, on va dire. Ils choisissent toujours la plus naturelle, mais toujours,
bien sûr.
À chaque fois.
Ce qui paraît le plus, j'imagine, c'est ce qui déjà ressort le mieux joué par un comédien ou une comédienne, surtout si il ou elle est douée. Et puis c'est surtout que, comme tu disais, en tout cas, moi, je me place de l'autre côté, c'est-à-dire en tant que spectateur. Parfois, tu vois des choses, ça peut paraître synchrone, mais ce n'est pas très naturel. Alors que finalement, il faut que ça paraisse naturel, puisque même si c'est un film, c'est censé, et même si c'est doublé, c'est censé être des vrais gens, c'est censé être des... Et je pense que de le formuler à voix haute, comme tu dis... Est-ce que ce s'il te plaît là, je parlerai à ma boulangère comme ça? Est-ce que c'est pas un truc? Et finalement, c'est peut-être la limite du travail aussi des traducteurs et des adaptateurs, mais une bonne traduction, une bonne adaptation, parfois c'est peut-être celle où pendant tout le film, tu te dis pas, oh là là, telle formulation, ça me gratte un peu aux entendures et ça finit par me sortir du film.
Exactement, mais bien sûr, le but c'est qu'on oublie qu'on est en train de regarder une version française, et le but c'est d'aider les comédiens et le directeur artistique ou la directrice artistique en écrivant des dialogues qui se jouent, qui sont faciles à jouer, et que le comédien puisse aussi oublier qu'il est en train de lire un texte qui passe sous l'image sur la bande rythmo. Il faut absolument que ce qu'il lise à la première lecture lui paraisse facile et qu'il le comprenne instantanément. S'il y a la moindre difficulté, enfin je trouve un texte un tout petit peu alambiqué parce qu'on a essayé de placer une labiale à la troisième syllabe, non, ça freine le comédien, ça va le gêner, il va avoir du mal à comprendre ce qu'il est en train de lire. Il faut que ce soit immédiat, il faut que ce soit limpide.
D'autant que, comme tu disais, je pense que, surtout que si on regarde un film ou une série, généralement, ça va assez vite et on est plus facilement peut-être choqué, c'est pas le mot, mais on est peut-être plus facilement gêné par une traduction qui est pas très bonne, plutôt que je pense que le nombre de spectateurs qui se disent oh là là, là la labiale elle est pas bonne. c'est le chose dont on parle, c'est quand même des choses assez techniques, assez donc c'est vrai que je pense que c'est ça aussi que ça rejoint ce que tu dis. Donc c'est le plus important, c'est que ça sonne vrai, c'est que ça sonne
absolument. C'est ce qui est le plus important, le naturel et la musique, la musicalité, parce
le
que
phonie.
Oui, absolument.
C'est bon.
Non, mais c'est vrai, une fois en plateau, un directeur s'était penché vers moi, puis m'avait dit, tu vois, là, c'est de la musique. Si tu as un rythme, en fait, en anglais, voilà, il y a 3, 4, 5 syllabes, on va dire. En français, si tu te glisses là-dedans, en essayant, bien sûr, on fait tout notre possible pour mettre des labiales là où il y a des labiales, mais le spectateur ne va pas regarder la bouche des comédiens, des acteurs,
non,
à l'écran.
Sûr.
On regarde les yeux, on regarde le corps, on regarde les réactions, les émotions. Voilà, on n'est pas là complètement bloqué sur la bouche à regarder si les labiales sont remplies. Non, ça, voilà, c'est notre... On s'y attache parce que ça donne l'illusion du synchronisme, et c'est quand même notre métier à la base. Mais voilà, le spectateur, quand il est pris par l'action, quand les comédiens français sont bons et que la direction est bonne, il ne va pas regarder les bouches des comédiens pour voir si c'est synchrone, non, effectivement.
Bien sûr, c'est exactement ça. Si le film est bon, que les acteurs sont bons, que les comédiens français sont bons, j'ose espérer que le spectateur ou la spectatrice ne sera pas obnubilé par la petite labiale ou la lèvre qui n'est pas la bonne. Par rapport à ce que tu disais, c'est justement, on avait eu l'occasion aussi d'en parler avec Barbara. Toi, tu disais de présenter, d'assister, même si c'est moins le cas maintenant, à des sessions d'enregistrement studio, ou de défendre, ou en tout cas de d'échanger, et oui, parfois de défendre auprès du client et auprès du studio, de la maison de doublage. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait fréquemment sur chaque projet?
Je ne crois pas. Quand j'en parle autour de moi à mes collègues, confrères, consoeurs plutôt, souvent ils me disent, alors parfois ils n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent beaucoup, donc tant mieux pour eux, hein, ou alors ils ont renoncé à y aller, ils n'y vont plus, je ne sais pas, peut-être qu'ils estiment qu'ils n'ont plus besoin d'y aller, ou qu'ils sont pas, ils se sentent peut-être pas bien accueillis, mais pour ma part en tout cas, je me suis toujours sentie très très bien accueillis sur les plateaux. Au contraire, les comédiens me disaient qu'ils étaient ravis de pouvoir parler à la personne qui avait écrit le texte. Et puis quand, par moment, il y avait des petites choses qui accrochaient, parce que ça arrive toujours,
bien
évidemment, Eh ben, on trouve d'autres solutions, c'est intéressant, on discute, je propose des choses, il propose des choses, c'est un échange. Le directeur artistique, parfois, je peux lui expliquer pourquoi j'ai choisi ce mot-là, à cet endroit-là. Parce qu'il y a une vérification avant l'enregistrement, bien sûr. On vérifie ensemble avec le directeur artistique notre texte et le client. Mais bon, on ne peut pas tout passer en revue. Et il y a des choses qui apparaissent aussi au moment de l'enregistrement. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues, qui se passent comme ça, au moment du jeu. Et donc, on peut expliquer aux comédiens ou plutôt au directeur artistique pourquoi on a fait certains choix. Et ça l'aide dans sa direction
même,
aussi.
Oui, même le directeur artistique, le DA, lui, il est content d'avoir la personne qui est en charge de l'adaptation et de dire qu'est-ce que tu proposerais ou est-ce que tu aurais mieux. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, tu l'as dit à voix haute, mais parfois, le sens ou justement le sens qui t'accommode qu'à moitié d'une réplique, c'est le comédien qui va le jouer en lisant la bande rythmo. Et là, tu vas dire... Ah oui, d'accord.
Ouais, ça arrive, bien sûr. Les comédiens sont force de proposition aussi. Ils peuvent se tromper. À ce moment-là, on peut être là pour aussi signaler un anglicisme ou quelque chose qui ne se dit pas vraiment comme ça en français, selon nous. On discute. Enfin, c'est un travail d'équipe, de toute façon. Donc, je trouve ça passionnant, moi.
Tu disais avant, c'est de la musique. En fait, c'est exactement ça. Finalement, toi, tu es un petit peu le compositeur, le directeur artistique. Il est là en chef d'orchestre et il dirige les comédiens qui sont... Il y a les violons, il y a la section cuivre et tout. Donc, c'est vrai. C'est assez... ça doit être assez passionnant les échanges de ce côté-là.
Ouais.
Donc là, on a parlé de l'adaptation de doublage. Toi, ce sur quoi tu travailles beaucoup, et d'ailleurs, tu en faisais, tu faisais ça avant de faire de l'adaptation de doublage, c'est du sous-titrage. Donc le sous-titrage, c'est un exercice qui est technique et qui a ses contraintes aussi. Une contrainte qui n'est pas exactement la même qu'en adaptation, c'est que parfois il faut faire court, il faut faire synthétique, il faut raconter beaucoup de choses en peu de mots, en peu de phrases. Est-ce que parfois ça, on n'a pas l'impression d'écrire un peu des haïkus ou en tout cas de devoir aller droit au but?
Écoute, moi j'essaye de ne pas écrire en télégraphique, comme on dit parfois, pour le sous-titrage, parce qu'effectivement, pour chaque sous-titre, on a un nombre de lettres à respecter le mieux possible.
Sans rentrer dans des considérations trop techniques, si je ne dis pas de bêtises, en fait, le sous-titrage, effectivement, il va avoir un nombre de caractères et de espace inclus maximum, et c'est surtout qu'il est aussi conditionné par les changements de plan, c'est-à-dire que si on change de plan, on peut pas faire...
On évite de faire passer un sous-titre à cheval sur deux plans, même si aujourd'hui, tu parlais de Don't Look Up tout à l'heure,
les films, tu vois, plus tard,
Bon, c'est un exemple de film qui est monté très très cut avec beaucoup de plans.
Parce que l'influence de la pub et du clip sont passées par là. Et maintenant, j'ai l'impression que les films sont de plus en plus cut et il y a de plus en plus de coupes. Et le métier de sous-titrage en est forcément impacté.
Oui, c'est impacté, bien sûr. Mais moi, j'ai l'habitude de dire quand on hésite à faire passer un plan. Je trouve que l'essentiel, c'est de faciliter la lecture. Alors, certains disent que si on chevauche un plan, la lecture est plus difficile parce qu'on a l'impression de lire le sous-titre deux fois. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, ça dépend des cas, c'est vraiment au cas par cas. Mais je trouve ça plus simple de laisser le sous-titre entier sur deux plans, qu'on ait bien le temps de le lire, plutôt que de couper une phrase à un endroit pas logique où le cerveau n'arriverait pas à relier les deux.
Même cognitivement, parfois, c'est compliqué. Et donc, tu disais, tu souhaites pas et tu évites d'adopter un style qui est trop télégraphique. Pour autant, on est
obligé.
Forcément moins littéraire que quand on fait de l'adaptation, notamment.
Bien sûr. Ah oui, on est obligé de faire des choix, on est obligé de résumer les idées, de choisir certaines idées parfois, de trouver des formules efficaces, des formules synthétiques, pas télégraphiques, mais synthétiques. Essayer de résumer en un seul mot, trois mots anglais, par exemple, ça oblige à être assez créatif. Moi, j'aime beaucoup aussi cette créativité-là, qui est complètement différente de celle du doublage. En doublage et asynchro, et nous, on a en sous-titre le fait d'être succinct, le fait d'être efficace, d'être... je trouve pas mon mot, mais percutant. Voilà.
Percutant, oui,
percutant.
C'est vrai que,
et ça, j'adore.
Il y a, souvent dans le sous-titrage presque un côté punchline, c'est-à-dire que tu dis, bon, alors là, avec le nombre de caractères que j'ai, il va falloir faire court et en même temps sans trop abattardir, pour le dire comme ça, le sens de la réplique VO, parce que et pour autant, parfois, effectivement, ça peut être un plan très court et le type peut parler très vite et mettre trois phrases et toi, tu en as une. Donc...
Bah oui. Souvent, on nous dit d'ailleurs, un des reproches principaux qu'on entend, c'est tout n'est pas traduit. Et ce que je réponds souvent, c'est que si on traduisait tout, ce serait impossible à lire.
Exactement.
Vous passeriez votre temps à lire l'écran, à lire le sous-titre. Voilà, vous verriez encore moins l'image, parce que déjà, vous êtes obligé de rester en bas de l'image la plupart du temps. Si on traduisait tout, ça serait encore pire.
Oui, puisque ça, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu fais du sous-titre et quand tu es en tant que spectateur, le sous-titrage, c'est presque pas le même niveau de diégèse, dans le sens où, étant donné que c'est plus la lecture que l'écoute qui est, enfin c'est même tout à fait ça, qui est mobilisée, la contrainte c'est aussi de pouvoir lire le sous-titre sans être sorti du film et sans rater le plan de ce qui se passe. On peut en parler après, mais dans Look Up, c'est bien de lire les sous-titres, mais il faut aussi voir DiCaprio parler avec Jennifer Lawrence. C'est ça d'où l'intérêt de faire court aussi.
Bah oui, c'est un compromis, hein. Évidemment, ça peut pas être idéal, mais faire court, ça sert effectivement, je trouve, le film. Et puis il faut aussi faire j'essaie de faire confiance aussi à l'oreille du spectateur. Alors tout le monde n'est pas anglophone, certes, mais je suis sûre que le cerveau comprend certaines choses, en anglais en tout cas, parce que c'est une langue qu'on entend beaucoup, on est quand même plongé dans l'anglais très très souvent. Donc je fais souvent confiance au cerveau pour comprendre certaines choses inconsciemment, et donc que le sous-titre soit un support de compréhension, mais ne mâche pas tout, parce que sinon ce serait trop.
De pas faire redondant.
Pas être redondant, soutenir, accompagner le spectateur dans ce que le cerveau peut entendre, comprendre. Il y a certains mots qu'on comprend, qu'on devine au milieu de la langue, même dans des langues qu'on maîtrise moins.
Ouais.
Et donc, le sous-titre doit venir appuyer ça et soutenir ça, mais en étant discret et percutant quand même. Et justement, garder, comme tu disais, la punchline, l'esprit du film, la réplique qui fait mouche, essayer de trouver le même esprit dans la traduction. En adaptant, hein, forcément, il y a des références culturelles qu'on ne peut pas garder. Mais l'oreille entend l'anglais, il faut aussi penser à ça. On ne peut pas complètement partir dans une direction opposée, parce que ça serait... Ça ferait un...
Ah oui, oui. À l'inverse, il y a vraiment des traductions où... On disait d'être sorti du film en regardant un film en français, mais parfois le sous-titrage, si le sous-titrage est trop décalé par rapport au sens ou tu prends trop de liberté, tu te dis
bien sûr,
il y a un ils se sont trompés c'est les sous-titrages d'un autre film qu'ils ont plaqué dessus, parce que même si c'est toujours tu te dis je pourrais faire mieux que la personne qui a traduit, pas forcément, mais en tout cas c'est vrai que parfois c'est aussi ça le problème.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Donc on parlait de Don't Look Up, c'est le dernier projet, en tout cas gros projet, puisque c'était, étant donné que c'était un film Netflix, on en a beaucoup parlé pour le film et les grosses stars qu'il y avait, et pour le commentaire presque sociétal ou social que ça a généré. C'est un film qui est assez long, comme tu disais, qui est assez cut, qui est assez complexe, il y a même un petit peu de jargon scientifique. Est-ce que c'est un film qui a été... difficile pour toi à adapter ? T'as fait les sous-titres, tu me disais ? L'adaptation, pas l'adaptation de doublage ?
Non, pas l'adaptation de doublage. J'ai travaillé en parallèle avec Margot, l'ami qui a écrit la version française. On s'est concerté, on s'est même vu chez moi. Voilà, on a travaillé ensemble. Et c'est toujours assez passionnant d'ailleurs de faire équipe avec la personne qui fait l'autre version du film.
Il y a un petit peu de synergie qui se crée.
Bien sûr, des idées, un brainstorming, on réfléchit sur certains problèmes, on trouve chacune sa solution, parce que la solution VF sera pas version française sera pas forcément la même que celle du sous-titrage, parce qu'il y a des choses qui marchent à l'oreille mais qui marchent pas à la lecture, comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, c'était très intéressant. Et donc moi j'ai fait les sous-titres. Et c'était un film très difficile techniquement, qui était donc très rapide, très cut, etc. Donc ça demandait une précision absolue dans le placement des sous-titres et une logique des choix de placement de sous-titres qui en France... Enfin, on a une culture du sous-titrage en France que les Américains n'ont pas forcément.
Bien sûr.
Et là, en l'occurrence, le sous-titrage avait été préparé par un labo américain qui en fait des tonnes, enfin ils travaillent pour le monde entier, et je ne remets pas en question du tout leur professionnalisme, mais c'est juste une différence de culture, de sous-titrage. Et donc souvent quand je travaille avec eux, on doit repasser derrière eux et replacer les sous-titres comme nous on a l'habitude de les avoir en France. Donc ça a été un énorme travail de repérage, enfin de correction du repérage.
D'accord.
C'est-à-dire du placement des sous-titres. Donc ça m'a pris des heures, enfin 25 heures à peu près.
Au-delà du travail d'adaptation. Textuel en tant que tel.
Voilà,
vraiment
exactement.
Le travail technique de placement.
Ouais.
justement, c'est un film, mais comme chaque film qui a un sujet spécifique, peut avoir son jargon, notamment toutes les scènes avec Jennifer Lawrence et DiCaprio. Lui, il est... ça parle à l'intérieur de sa profession exactement, m'échappe, mais il y a un petit peu de jargon scientifique. Est-ce que dans un cas comme ça, que ce soit l'adaptation du doublage ou au sous-titrage, ou par exemple, je prends l'exemple d'un film ou d'une série qui se passerait dans un hôpital, est-ce que pour être sûr d'utiliser les bons mots, les bons termes, vous pouvez être aidé par des spécialistes ?
Bien sûr, je peux par exemple te parler de l'adaptation, là j'ai fait la version française de First Man de Damien Chazelle, qui raconte les premiers pas de l'homme sur la Lune et de toute la préparation de cette mission dans l'espace, qui était extrêmement technique. Je pense qu'environ 70% des dialogues du film étaient...
Bien sûr, puisque c'est des types de la NASA qui...
Voilà. Qui ont préparé le projet. Et donc, pour ce film-là, j'ai fait appel à un des consultants avec qui je travaille régulièrement sur tout ce qui est aérospatial, en l'occurrence. C'est quelqu'un qui habite à Kourou, que j'ai consulté pour la première fois, je crois que c'était pour Seul sur Mars, que j'ai trouvé sur Internet en lisant des interviews, puis sur LinkedIn. Je suis allée le chercher sur LinkedIn, je l'ai contacté sur LinkedIn. Et depuis, on travaille ensemble. À chaque fois que j'ai des hommes dans une fusée, voilà.
Pour aller dans l'espace plus ou moins lointain.
Pour aller dans l'espace.
Ou quand il y a un stéroïde qui va faire exploser la Terre.
Exactement. Et donc, sur First Man, Thierry m'a énormément aidé. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'adaptation.
Tu peux dire son nom, d'ailleurs, pour le...
Oui, Thierry. Alors, pourquoi son nom m'échappe, son nom de famille, je ne sais plus.
Juste pour
mais pardon, Thierry.
On mettra sur la page de l'émission.
Voilà. Oui. Je donnerai son nom. Et donc, oui. Et c'est un des moments que je préfère d'ailleurs dans ma profession. C'est le moment où je reçois les réponses de mes consultants avec le jargon, avec le vocabulaire, les expressions que jamais j'aurais pu inventer ou trouver, puisque c'est des expressions qui se disent entre eux comme ça dans la vie de tous les jours dans leur métier. Et c'est des choses qu'on trouve pas dans les dictionnaires, qu'on trouve pas sur Internet. Donc là, l'humain est indispensable. Et c'est souvent avec beaucoup de générosité qu'il m'aide et qu'il me donne des idées de traduction. Thierry a tout de suite compris la différence entre sous-titrage et doublage. Donc souvent même, il me donne deux solutions selon la version sur laquelle je travaille. Donc c'est passionnant.
Oui, c'est passionnant. Je viens de croire parce que, comme toi, comme beaucoup de gens, je pense qu'on peut partir du principe qu'on sera jamais dans les cercles fermés de la NASA ou à Kourou et qu'on ira jamais dans l'espace. Donc d'aborder ça par ce biais-là, effectivement, ça doit être assez assez passionnant. Un autre grand cinéaste dont tu as sous-titré les films que moi j'aime en plus beaucoup personnellement, c'est Wes Anderson. Oui. Et je pense notamment au sous-titrage de son dernier film The French Dispatch que j'ai vu en VO. Et les sous-titres étaient vraiment de très bonne qualité, honnêtement. je le dis pas parce que c'est pas pour failloter, mais vraiment, je suis très attentif à ça pour avoir un petit peu travaillé dedans. Et vraiment, ils étaient très je trouvais qu'on retrouvait vraiment l'énergie de Wes Anderson, puisque c'est un cinéaste très particulier, assez idiosyncratique. Même visuellement, ses films ne ressemblent à rien d'autre. Et même la façon dont il fait parler ses personnages et dont il écrit ses dialogues. Et ça, j'imagine que c'est forcément une contrainte supplémentaire quand on l'adapte.
C'est à la fois une contrainte et merveilleux. Moi, j'adore. C'est le deuxième ou troisième.
Tu avais fait L'île aux chiens, il me semble.
L'île aux chiens, absolument.
C'était différent puisque c'était un dessin animé.
Oui, c'était différent et en même temps, on retrouvait cet esprit extrêmement précis et ces dialogues truculents et extrêmement riches de Wes Anderson. Donc, sur les films de Wes Anderson, je travaille toujours en binôme avec ma grande amie Mariette Kelley. Et on n'est pas trop de deux parce qu'effectivement, c'est très très dense, très très exigeant, très très précis. Et on est supervisé dans ces traductions-là par Wes Anderson lui-même qui relie,
qui est francophone.
Il me semble
qu'il habite à Paris d'ailleurs.
Oui, il a au moins une résidence à Paris en tout cas. Mais donc il relie les sous-titres, il est très très exigeant, extrêmement obsédé du détail, etc. Donc même dans la traduction, il veut tout retrouver. Alors, on lui a expliqué cette notion de lisibilité, c'est-à-dire de l'obligation qu'on a de réduire le texte et puis de faire court, mais avec lui, ça ne marche pas.
Il a du mal à faire court.
Il a du mal à faire court, il ne souhaite pas qu'on enlève le moindre détail de son texte, donc ce que vous lisez à l'écran, c'est quasiment littéral. Et comme ce texte, ces dialogues à lui sont extrêmement riches, ça nous tire vers le haut. Enfin, on ne peut faire qu'une traduction, truculente, inventive. Alors, c'est technique, oui, bien sûr, on est obligé de jouer avec les mots. Mm-hmm. On trouve des synonymes. On est transporté. Enfin, moi, vraiment, c'est vraiment un réalisateur sur lequel j'adore travailler parce que c'est d'une richesse incroyable.
Bien sûr. Et même sur la forme, je trouvais ça assez intéressant. Dans ce film-là, ça m'était resté en mémoire. Il y avait un usage. Abusif, c'est pas le mot, mais il y avait un usage. Il y avait beaucoup de parenthèses dans tous les sous-titrages. Dans tous les sous-titres, alors que en sous-titrage, c'est finalement.
Ça se fait pas.
Ça se fait pas. Non. Enfin, en tout cas, tu pars du principe que quand c'est sous-titré, comme tu dis, comme pour rejoindre ce que tu disais avant, étant donné qu'on va droit au but, étant donné qu'on essaye d'éclaircir un petit peu l'action, plutôt que de faire redondant parce qu'il a été dit, les parenthèses, ça s'y prête pas trop. Non. Et là, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il y en avait énormément. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, vraiment, tu vois, j'ignorais que Wes Anderson avait supervisé à ce point le sous-titrage.
Ouais.
Mais en fait, ça colle parce que oui, il fait des choses qui ressemblent à personne. Ces personnages ne parlent pas comme les gens de la vraie vie, ne parlent pas comme les gens dans d'autres films. Et donc, finalement, de réussir à retranscrire ça dans le sous-titrage, c'est assez passionnant.
Bah oui, ça fait penser presque à la BD, à des bulles de BD, choses comme ça. Puis, comme tu dis, il prend des libertés telles qu'en sous-titrage, sur le dialogue, tu sais, on dispose toujours du dialogue écrit, d'une mm-hmm. spotting list ou d'une dialogue list, comme on dit. Et ben sur le relevé de son texte, il y avait ses parenthèses. En fait, on n'a fait que respecter sa façon à lui de transcrire ses dialogues. Et ça nous a paru assez naturel, finalement, puisque c'est Wes Anderson. Enfin, voilà, on se sent libre d'explorer, d'innover. Et moi, ça ne m'a pas du tout gênée. Et c'est drôle parce qu'on m'en parle beaucoup de ses parenthèses. Il y a beaucoup de spectateurs qui peuvent être parfois gênés, d'ailleurs. J'adore.
J'ai adoré, justement. Je me suis dit, bah oui, effectivement, on voit pas ça d'habitude, mais...
Ouais.
C'est Wes Anderson.
C'est l'esprit Wes Anderson.
Voilà, ça rejoint tout à fait. Et alors, justement, par rapport à ce qu'on dit depuis le début de l'émission, tout le monde ne parle pas anglais couramment, donc jusqu'à preuve du contraire, le doublage et le sous-titrage seront, pour ceux qui n'aiment pas ça, un mal nécessaire, et pour ceux qui aiment ça et quand c'est bien fait, une valeur ajoutée. Mais est-ce que c'est, à tes yeux en tout cas, un métier qui est... pas encore assez mis en avant et mis en valeur, parce que je sais que fréquemment ça m'arrive de rester jusqu'au bout du générique pour voir qui a sous-titré, mais généralement je suis le dernier dans la salle. Parfois on me dit bon là faut y aller monsieur. donc et parfois les gens qui ont fait le sous-titrage sont même pas crédités du tout. Est-ce que on devrait les mettre plus en avant?
À une époque, le nom du traducteur des sous-titres était au générique début. Il était vraiment avant que le film commence, enfin pendant le générique début. Mmh. Et puis ça a changé. Maintenant, effectivement, on est vraiment à la toute fin du déroulant, quand il n'y a plus personne dans la salle, comme tu dis. Donc écoute, moi je trouverais ça normal qu'on soit crédité un peu plus tôt dans le générique, peut-être sur IMDb, peut-être sur Allociné, parce qu'après tout, quand tu achètes un livre, tu as le nom du traducteur juste derrière la couverture. Enfin. Ouais, moi je trouve que c'est un métier méconnu, que les gens ignorent. Même quand on parle du doublage, à 95%, tu vois des émissions avec les comédiens qui arrivent et on a l'impression que c'est eux qui improvisent en français en regardant l'image. On parle très 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 rarement de l'adaptateur. On met 3 semaines à traduire un long métrage, donc c'est quand même un travail de longue haleine qui demande de l'application, de l'engagement, du travail, de la culture, des années d'études, etc. On n'improvise absolument pas la traduction des dialogues français, ni du sous-titrage. Voilà, donc effectivement, je trouve que c'est un métier qui mériterait d'être plus connu.
Tout à fait. le message est passé. Avec l'essor des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, depuis quelques années, on assiste à une explosion du nombre de contenus, donc que ce soit des films ou des séries qui est disponible, et aussi beaucoup un nivellement par le bas de la qualité des sous-titres. C'est l'ATAA, l'Association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel,
oui.
Si je ne dis pas de
bêtises. L'ATA, oui.
Voilà, qui avait écrit un article qui était très intéressant, qui revenait sur justement la piètre qualité des sous-titres de programmes dont on avait beaucoup parlé, notamment Squid Game, c'était un exemple récent qu'il prenait, et il me semble qu'on touchait un petit peu le fond du fond avec la série Y, le dernier homme, qui était diffusée sur Disney+, puisque là, c'était carrément, je pense que même un élève de 4e avec Google Trad aurait fait mieux. Donc, à ce propos, l'ATA fait souvent des communications, justement, un petit peu pour rappeler le rôle essentiel que tu viens de souligner. Mais justement, c'est une situation qui peut sembler assez paradoxale, puisque, comme tu disais, il y a de plus en plus de traducteurs et d'adaptateurs. Et pour autant, on a l'impression que souvent, sur pas mal de choses, c'est de moins en moins bon. À quoi est-ce que c'est dû ?
Ah, vaste question. Je pense que les plateformes, en arrivant en France en tout cas, et dans les autres pays peut-être aussi, je ne sais pas, je ne connais pas la situation ailleurs, mais n'avaient peut-être pas forcément conscience de l'importance de l'adaptation. Au début, en tout cas, il semblait ne pas faire appel à des gens dont c'était peut-être même le métier. Ils ont d'ailleurs commencé à proposer à n'importe qui, entre guillemets. Enfin,
c'est un métier qui s'est ubérisé aussi.
Voilà, ils avaient créé une espèce de, pas un concours, mais enfin...
Un appel d'offres,
voilà, pour trouver des traducteurs volontaires et enthousiastes pour traduire les films, alors que bon, c'est un métier. D'ailleurs, cette initiative a capoté assez rapidement. Ils se sont rendus compte que ça ne donnait pas de bons résultats. Donc, j'espère que c'est en train de changer. En tout cas, on m'a approché pour certains programmes, dont Look Up, parce que j'avais un CV, une expérience, etc. J'ai l'impression qu'ils cherchent quand même, en tout cas pour certains programmes...
Qui sont un petit peu la vitrine, peut-être.
Un petit peu la vitrine, un petit peu de prestige, on va dire, des traducteurs professionnels. J'espère que même pour les autres programmes, ils vont consulter, par exemple, l'annuaire de l'ATA, qui propose des dizaines de noms de traducteurs professionnels. Et arrêter de faire appel à des gens dont c'est pas le métier, puisque c'est un métier, c'est pas quelque chose qui s'improvise pas. Même quand on est bon en anglais, la traduction du visuel, c'est une technique, c'est quelque chose qui s'apprend sur des années et voilà, qui ne s'improvise pas. Donc j'ose espérer que c'est en train de changer.
Depuis l'arrivée de Netflix en France, on va dire 2014, 2015 à peu près, déjà la situation a évolué de ce point de vue-là.
Alors, je ne regarde pas tous les programmes, hein. Je ne peux pas en être juge à moi toute seule, mais voilà, pour les films prestige, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Je ne sais pas, il faudrait demander aux spectateurs qui regardent beaucoup, beaucoup de choses sur Netflix. Non,
dans le cas d'un film, d'une série, pardon, comme Squid Game, c'est rendu d'autant plus difficile par le fait que ce n'est pas en anglais,
ouais.
C'est en coréen.
Absolument.
Donc, il y a moins de gens à traduire le coréen que traduire le français. Et ça nécessite, si je ne dis pas de bêtises, aussi de passer par ce qu'on appelle une langue pivot, une langue relais, c'est-à-dire que ça va être traduit d'abord du coréen vers l'anglais et ensuite
Et ensuite,
il y a l'appauvrissement de la traduction qui se fait entre-temps.
Bah, si on s'adresse à un traducteur uniquement anglophone, forcément, il va faire ce qu'il peut avec l'anglais qui lui est fourni, qui lui-même n'est peut-être pas idéal. Alors qu'il faudrait faire appel peut-être à un adaptateur anglophone, mais soutenu, aidé par quelqu'un qui parle le coréen, la langue, la version originale, qui puisse être son consultant et l'aider à faire une adaptation la plus fidèle possible à la version originale et non pas à l'anglais. L'anglais ne doit être qu'une aide.
Oui.
Effectivement, on a effectivement du mal à trouver des adaptateurs du coréen vers le français, encore qu'il en existe, hein, oui. Si on cherche un tout petit peu. C'est souvent la solution de facilité d'aller vers les anglophones, mais il y a quand même beaucoup de traducteurs d'autres langues. Et il faut au moins les faire participer au projet. Si on est avec un traducteur anglophone, accepter de payer davantage pour qu'il y ait une tierce personne qui parle la langue originale et voilà, et qui donne une traduction correcte.
C'est aussi finalement une histoire de...
De sous.
De gros sous.
Ah bah ça.
Sonnant et trébuchant.
Oui.
Le quatrième mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Justement, par rapport à ce que tu disais avant, toi, quand tu les projets sur lesquels tu as travaillé, ou en tout cas les cas de figure, outre ceux de Wes Anderson dont tu parlais, où là, c'est la langue est unique et on va dire taillée sur mesure, les projets les plus difficiles, est-ce que ce sont ceux qui sont. Je pense notamment à des comédies où de traduire des blagues, c'est compliqué. Surtout, ça fait parfois référence à un bagage et à un environnement culturel et référentiel qui n'est pas forcément le nôtre en France.
Oui, c'est souvent assez difficile. On s'arrache un peu les cheveux, effectivement, pour faire rire quand même au bon moment. Tout en, on peut pas toujours reprendre les références culturelles, comme je disais. Le nom d'un présentateur télé aux États-Unis ne va rien évoquer aux spectateurs français. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire appel à Michel Drucker, hein, parce que ça marche pas, je trouve en tout cas.
Non.
Mais de faire de rester dans l'esprit, de trouver la caractéristique de ce présentateur et puis hop, de le décrire dans l'adaptation pour que tout de suite on voit le style de présentateur que c'est, ou de nourriture, ou j'en sais rien, tout ce qu'on peut évoquer de la culture originale, pour faire comprendre aux spectateurs français ce qui est drôle dans cette situation. Parfois c'est des rimes, parfois c'est des assonances, des consonances, des choses qu'on entend qui font rire. Donc là, à l'écrit, par exemple, en sous-titrage, c'est pas facile parce
Bien
que
sûr.
quand on lit, évidemment, l'effet n'est pas le même. Voilà, il y a toutes sortes de choses, de petites énigmes à résoudre, mais c'est ce qui
Ça
fait
peut être
l'intérêt de
assez
notre métier
ludique
aussi,
aussi,
bien
ouais,
sûr.
c'est ce
Bah
que j'allais
oui,
dire.
évidemment.
Et est-ce que toi, tu as, au cours de ta relativement longue carrière maintenant, en sous-titrage ou en adaptation, des projets qui, outre ceux de Wes Anderson dont on parlait, des projets qui t'ont marqué parce que c'était particulièrement génial à bosser ou parce que c'était particulièrement dur ou que ça t'a laissé un souvenir impérissable?
Écoute, un de mes meilleurs souvenirs, c'était au tout début, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors,
Magnifique film.
voilà, alors c'est pas spécialement d'un point de vue de l'adaptation, je me souviens plus, c'était il y a très longtemps, mais j'ai eu un plaisir fou à travailler sur ce film. Bon, là, c'est plus le côté cinéphile, enfin, voilà,
Magnifique film,
le
effectivement.
plaisir du film.
Et
Oui.
dans ce cas-là, étant donné que c'est réalisé par Michel Gondry, qui est lui aussi, j'allais dire francophone, mais tout à fait français, est-ce qu'il avait aussi travaillé sur pas la post-prod, mais l'adaptation?
Écoute, tu me poses une colle, je me souviens plus, mais si je m'en souviens plus, c'est que non,
Non,
je pense
d'accord.
pas, je crois pas qu'il soit intervenu à ce moment-là.
Donc ça, c'était un
Ça,
souvenir
c'était
particulièrement
un
qui t'avait
grand
marqué.
souvenir.
Bah,
Ouais,
très très
ouais.
beau film, effectivement.
Bah
Donc,
oui,
en plus, j'avais dû
c'était.
le voir il y a quelques années en anglais sous-titré français. Donc tu vois, effectivement, ça m'avait
Ouais,
aussi
ouais, ouais.
beaucoup marqué.
Et puis il y a un autre film aussi sur lequel j'ai pris un plaisir fou, c'est The Gentlemen de Guy Ritchie.
Ah oui,
Je sais pas si
d'accord.
tu vois, c'est sorti,
Ouais, je l'ai
je crois que c'est
vu
sorti en
et c'est
2019
ça. Alors c'est sorti.
ou 2018 peut-être.
Non, je crois que c'était plutôt. Alors je dirais fin 2019 ou début 2020 de mémoire.
D'accord,
C'était
ah,
avant
peut-être tout
peu de temps
début.
avant le premier confinement.
Ouais,
J'ai gardé
c'est
ça en
vrai.
tête, ça m'a traumatisé.
T'as raison.
Et je l'avais vu en VOST d'ailleurs. Je savais pas que c'était toi.
Oh,
D'accord.
et alors là, j'ai pris un pied, tu peux pas savoir. Vraiment, j'avais écrit, je me souviens, un texto à mon client pour lui dire, oh là là, merci, merci, merci pour ce film. Parce que je sais pas, il y avait une énergie. Tu sais, ça va super vite aussi. C'est très, très speed et c'est drôle et
Ouais.
c'est percutant. Enfin,
Ah
tout ce
bah
que
là, on est
j'aime.
par rapport à ce que tu disais tout à
Ouais.
l'heure, le côté percutant, effectivement, on est en plein dedans. Et puis j'imagine ce qui devait être très drôle aussi, c'est parce que c'est des petits voyous de la banlieue de Londres avec un accent à couper au
Bah
couteau. Donc à
oui.
retranscrire, il y avait
Oui.
des choses ou à adapter, ça devait être
Ben
tout à fait
ouais.
jouissif, quoi.
Je sais pas, j'étais portée par le truc. Et puis j'ai cherché, je cherchais, j'avais mon cerveau en ébullition et c'était vraiment un des moments qui rendent ce métier passionnant, je trouve.
Fantastique.
Ouais.
Et alors tout à l'heure, tu faisais brièvement allusion à ça. Tu disais, tu parlais du nombre à la fois de gens et de studios de doublage, de labos, comme on dit parfois, que ça avait attiré, notamment sur le passage au numérique. Sur ce qui concerne le sous-titrage, comme tu le dis sur ton site, toi, quand tu as commencé, c'était encore du sous-titrage à l'ancienne, j'allais dire en physique, mais en tout cas pas dématérialisé comme on le faisait depuis les années 30. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as débuté ton métier, du point de vue technique?
Alors, écoute, du point de vue technique, on est passé donc en dématérialisé, donc les choses vont plus vite, c'est plus facile peut-être techniquement, enfin, comment dire, ça, il y a certaines étapes qui sont plus nécessaires, c'est un petit peu moins laborieux, Mais de ce fait, les délais se sont énormément raccourcis. On nous demande de travailler plus vite. Alors, évidemment, il y a aussi Internet qui est apparu depuis. Donc, ça nous permet de travailler, de trouver des solutions et de nous informer beaucoup plus rapidement.
Oui, parce qu'avant, les termes techniques dont tu parlais, oui.
Bah oui, parce qu'avant, les traducteurs allaient en bibliothèque. Tu vois, enfin, voilà.
Aujourd'hui, tu tapes ça sur Google. Même si c'est un sujet technique et obscur, il y a probablement un blog dans Le Monde qui lui a été consacré.
Voilà, donc le rapport au temps a complètement changé. Tout va plus vite, un peu comme, d'une manière générale. Et puis, les tarifs ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai la chance de travailler pour le cinéma, donc je n'ai pas à me plaindre de ce point de vue-là. Mais comme les gens constatent qu'on travaille plus rapidement, souvent, ils ont l'air de penser que le métier est plus facile et facilité. Et puis, du coup, les tarifs ont dégringolé.
D'accord.
Depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années. C'est plus du tout les mêmes conditions de travail.
Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi une conséquence du fait qu'il y ait de plus en plus de gens pour faire ce métier-là sur le
bien
secteur
sûr,
de plus en plus,
bien sûr,
y compris de gens débutants ou inexpérimentés qui sont prêts à travailler pour des
clopinettes.
Et donc tu disais toi quand tu travailles sur un long métrage, tu disais 3 semaines, c'est pour la partie adaptation ou sous-titrage?
Alors, en sous-titrage, c'est un petit peu moins. Alors, tout ça, c'est des moyennes, hein, évidemment. Ça dépend de la durée du film, de la difficulté.
Oui, bien sûr.
Souvent, on dit 15 jours pour un sous-titrage et 3 semaines pour un doublage. Bon, voilà. Ça, c'est un peu le minimum pour bien faire les choses, pour pouvoir faire son premier jet, laisser reposer, se relire, retravailler et voilà, avoir le temps de bien faire les choses. Bon, c'est dans l'idéal. Comme je te disais, il y a certains clients qui te laissent 3 ou 4 jours pour un long métrage, voire moins, je crois. Enfin, ça, j'ai entendu dire. Mais voilà, ils se disent, bon, 3 jours, c'est fait. Hop, au fil de la plume, quoi. Enfin, comme si ça sortait tout seul et qu'on traduisait au fur et à mesure. Alors que non, il faut laisser reposer, enfin, comme tout travail artistique ou manuel ou quoi, ou n'importe quel travail d'ailleurs. Oui. Il faut le temps que ça mijote et puis que ça, voilà, que ça mûrisse, que les choses viennent. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on n'est pas de la traduction automatique. Et donc, voilà, on a besoin de temps pour bien travailler.
Bien sûr. Oui, d'autant que, comme tu disais avant, si parfois tu as une... c'est quasiment un poème au milieu d'un dialogue ou une blague. Si t'as pas l'inspiration sur le moment,
bien sûr,
tu dis bon alors je la mets de côté, j'y reviendrai, ou alors ah tiens je connais machin, si je lui demande. Enfin c'est aussi voilà, ce travail d'aller-retour effectivement que t'as dans tous les boulots créatifs, y compris de création, de création ou d'adaptation littéraire.
Ouais.
C'est le prix, la rançon de la gloire et le prix du travail bien fait. Alors on approche malheureusement bientôt au terme de notre interview, mais on va terminer par ce que je demande à chacun de mes invités, une recommandation culturelle. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs et nos auditrices? Une seule, hélas, c'est le oui, souci, parce que je sais que toi, c'était le cas. Généralement, je demande aux invités d'en choisir un seul, et le plus dur, c'est pas d'en choisir un, c'est d'en choisir un seul parmi les différents choix. Est-ce que tu as réussi à faire un choix cornélien?
Oui. Enfin, je vais rester sur le plus récent. C'est un film, parce que je suis très cinéphile et voilà, c'est ce qui m'est venu. En tout cas, j'ai vu un film il y a 2 jours. Ça n'a rien à voir avec ma profession pour le coup, puisque c'est un film français. Mais j'ai vu Les Jeunes Amants et je voulais rendre hommage à ce film que j'ai trouvé bouleversant et qui m'a laissé une empreinte assez forte. Et j'encourage chacun à y aller. Je trouve
c'est
que c'est un film magnifique.
Fanny Ardant et Melville Poupeau.
Melville Poupeau, Fanny Ardant, Florence Loirecaille, Cécile de France. Je parle des seconds rôles aussi parce qu'ils sont merveilleux. Tout le monde est merveilleux dans ce film. J'ai été bouleversée du début à la fin. C'est une écriture extrêmement sensible. Et ce talent, Karine Tardieu, la réalisatrice, a eu le talent de déceler l'humanité dans les silences. L'amour. Ça parle de l'amour, mais dans plein de situations différentes, l'amour filial, l'amour homme-femme, l'amour des enfants et des parents, la mort, la vie. Enfin, je ne sais pas. Ce film m'a bouleversée. Voilà. Bon, allez le voir.
Ah, effectivement, dit comme ça, ça donne envie d'y aller. Très bien. C'est une très belle recommandation. C'est très bien vendu. Et donc, pour parler de ton actualité immédiate ou prochaine en fonction des choses dont tu as le droit de parler. Donc on parlait de Don't Look Up, donc tous les films dont on a parlé qui sont sur les plateformes de streaming. C'est le charme, c'est que ça, c'est plus facile à accéder quand on est abonné que quand c'est au cinéma. Donc Don't Look Up, pour les quelques-uns qui l'ont pas vu, parce que tout le monde parle que de ça en ce moment, on le recommande aussi, c'est très intéressant à voir, y compris pour le sous-titrage. Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu travailles actuellement dont tu as pas forcément le droit d'en parler?
Non, j'ai pas le droit d'en parler. Ouais, on signe des documents, voilà, en fait.
Bon,
des...
bah, c'est ça. On
en a voilà, on n'a pas le droit.
Bon, bah tant pis.
Désolé.
Bah, Don't Look Up, ou alors les films dont on parlait qui sont en salle, mais peut-être pas, puisqu'on parlait des SOS Fantômes, mais il doit être.
Il était en salle. Oui, oui, il est sorti en salle, mais je sais pas s'il y est toujours.
Ou sinon sur Netflix.
Ah oui, il est déjà à dispo sur Netflix.
Non, pas,
un autre film. Bah, il y a Impardonnable avec Sandra Bullock, oui, qui est
sur Netflix aussi.
Ouais, c'est sur Netflix, je crois bien. Ouais, ouais. Que j'ai eu beaucoup de plaisir à traduire. J'ai fait la version française sur celui-là et je la trouve assez exceptionnelle dans ce film.
Et Top Gun, ça, tu l'as
fait. Ah,
bah
Top Gun.
Mais ça fait longtemps. Tu as travaillé dessus il y a longtemps.
Oui.
Puisqu'il devait sortir en 2019.
Ah,
ou 2020, finalement.
Ouais.
Au moment de la pandémie, il
exactement. Il devait sortir en 2020.
Et là, ils font que de leur pousser, comme l'émission Impossible, bah, d'ailleurs, parce qu'ils se disent que s'ils le sortent maintenant, personne n'ira.
C'est ça. Alors, Top Gun...
Donc ça, on a le droit d'en parler. Ça fait longtemps que tu as tourné la palle.
Je ne sais pas, parce qu'il n'est pas sorti. Donc, qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, je peux dire que j'ai travaillé dessus.
Tu peux dire que tu as travaillé dessus. On va pas te...
Voilà.
Je ne vais pas te garder dans le studio pour te torturer et que tu me racontes la fin du film entre Maverick et son
fils. Mais je vous encourage à le voir.
Bon, ben, surtout au cinéma, j'imagine qu'on en parle.
Ah oui, alors là, pour le coup, elle est en salle. Alors là, franchement, alors bon, d'une manière générale, je trouve que c'est toujours mieux. Je suis très, très, très cinéphile cinéma. Enfin, voilà.
En salle.
En salle. Et oui, alors celui-ci, évidemment, au cinéma. Alors là,
tout comme l'émission Impossible, et comme on le disait.
Mais bien sûr.
Ouais,
et j'attends le 7 et le 8 avec impatience.
Oui, en plus, ils vont sortir le 7 et le 8.
Ouais.
Et peut-être que ce sera toi. Ouais. Bah, beaucoup de choses à voir, dont Les Jeunes Amants, dont on parlait, qui est toujours en salle au moment où on parle. Donc, allez le voir. Et moi, je vous dis au mois prochain. Merci à tous et à toutes d'avoir... Et à bientôt.